9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Frédéric Lenoir.
Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, historien des religions, écrivain, vous êtes également directeur de l'école des hautes études en sciences sociales, mais dire ça ne vous définit pas. Vous avez publié une cinquantaine d'ouvrages traduits en 20 langues, dont les ventes globales dépassent sur la planète les 7 millions d'exemplaires. Et là, vous revenez avec un roman chez Albin Michel, il s'appelle La Consolation de l'Ange. Avant que vous nous racontiez qui est cet ange, d'abord l'histoire. C'est davantage, j'ai bien compris, un roman socratique, un dialogue, une rencontre. Qui sont les deux personnages qui se rencontrent ?
Alors, il y a un personnage qui s'appelle Hugo, qui a 20 ans, et c'est un jeune qui est complètement désespéré par la vie, qui trouve le monde va mal, tout va mal, il trouve que il y a aucun sens à l'existence, et il décide de se donner la mort, et puis il se rate, il se retrouve à l'hôpital, dans la même chambre que Blanche, une vieille femme de 92 ans, qui a eu une vie longue, mais aussi avec pas mal d'épreuves, et qui, elle, adore la vie. Et donc, finalement, Blanche, pendant les quelques jours où ils vont être ensemble, va essayer de lui redonner le goût de la vie, va essayer de lui redonner des bonnes raisons de vivre.
Et en fait, Hugo et Blanche, vous les avez choisis parce qu'ils sont emblématiques. Celle qui va mourir parce qu'elle dit ma fin est proche, et elle n'a pas le choix, et celui qui a fait le choix de mourir. C'est
exactement.
Ça. Ce sont
exactement.
Des emblèmes. C'est une
c'est
fable.
Des emblèmes. C'est une fable, absolument. C'est un conte philosophique, mais dans lequel, évidemment, mes personnages sont très présents. Et j'avais envie de donner tout un certain nombre d'intimes convictions sur le sens de la vie. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Vous savez, je fais des ateliers philo avec les enfants.
Ouais.
Et quand je pose la question à des enfants entre 6 et 12 ans, quelles sont les questions essentielles que vous posez? Ils disent tous la même chose. Pourquoi on existe? Pourquoi on est sur Terre? Pourquoi on meurt si on existe? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? C'est ça les grandes questions de la vie.
C'est la phrase la plus géniale philosophique de Leibniz, vous la connaissez? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien?
Absolument.
C'est juste complètement dingue.
Et les enfants
on peut rester jusqu'à demain.
Les enfants sont des petits philosophes qui se posent ces questions. Puis après, nous, on se dit, bon, les réponses sont compliquées, ce qui est vrai, elles ne sont pas évidentes. Alors du coup, on arrête de se les poser.
Ouais.
Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on va manger demain? C'est plutôt ça la question.
Entre les deux, je l'ai dit, c'est une fable. Vous racontez des contes. Il y a un très beau conte amérindien. Il est très court, on peut le raconter ici.
Oui, bien sûr. En fait, à un moment donné, dans la discussion entre Blanche et Hugo, Hugo lui dit, mais finalement, le cœur de l'homme, il est partagé, il y a le bien, le mal, à la fois on a envie de faire des belles choses, d'aider les autres, puis à la fois on est égoïste, on n'en a rien à faire des autres, les deux sont, on est partagé. Et Blanche lui raconte ce conte amérindien, et c'est un vieux sage qui dit à son petit garçon, tu sais, il y a deux loups en toi, il y a un loup blanc et un loup noir. Le loup blanc, eh ben, c'est tout le bien qui est en toi, qui veut grandir, s'améliorer, tout, puis le loup noir, il est méchant, il a envie de faire du mal aux autres, il a envie de tout prendre. Et lequel va gagner? Et le petit garçon ne sait pas, et le sage lui répond, celui que tu nourris.
On réfléchit là-dessus. Je trouve ça absolument magnifique. Je ne vais pas raconter la fin, mais on peut raconter la rencontre. L'ange blanc qui donne le titre à ce livre. Quand elle était jeune, Blanche s'est vue mourir. Elle était au-dessus d'elle et elle se voyait en tant que morte. Et ce n'est pas une élucubration de votre part, il y a des milliers de témoignages autour de ça.
Oui, alors une des choses qui a aidé Blanche à retrouver le sens de la vie, parce qu'elle a vécu aussi une grande épreuve quand elle avait 17 ans, et elle a failli mourir, elle s'est retrouvée dans le coma entre la vie et la mort. Elle a vécu cette expérience, et en fait, il y a des millions de personnes qui l'ont vécu également, et j'en connais personnellement deux. Elle s'est retrouvée entre la vie et la mort, et à ce moment-là, elle a vu que sa conscience était au-dessus de son corps. C'est-à-dire qu'elle a vu son corps, elle a vu ce qui se passait autour, les gens autour, etc. Et puis, elle a été prise dans une sorte d'aspiration, elle a revu toute sa vie et s'est retrouvée dans un tunnel de lumière dans lequel elle s'est sentie aimée de manière inconditionnelle. Et là, elle a fait une rencontre, effectivement, qui va changer sa vie.
Et elle a vu un ange.
Elle a vu un être de lumière.
C'est
en fait,
ce qu'on appelle...
Elle ne sait pas ce que c'est, mais elle voit un être de lumière qui l'aime de manière inconditionnelle et qui va lui expliquer le sens de la vie sur Terre.
Et c'est ce que la grande scientifique Elisabeth Kubler-Ross avait appelé les NDE, Near Death Experience, les expériences aux portes
de la mort.
Ça,
elle n'est pas vraiment morte, mais elle a quand même quitté son corps, donc il se passe quelque chose de très fort, et elle est revenue dans son corps. Et ce qui est très intéressant, on est nombreux à avoir lu La Source Noire de Patrice Von Hersel.
Je l'ai lu. Je l'avais lu en son temps.
Livre d'enquête passionnant sur tous ces scientifiques comme Elisabeth Kubler-Ross et d'autres qui ont investigué sur ces millions de témoignages. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tous les gens qui reviennent, en fait, ils n'avaient pas envie de revenir dans leur corps. Ils étaient tellement bien dans cet état qu'ils se disent « qu'est-ce que c'est dur de retrouver la douleur de mon corps, etc. » Et après, ils n'ont plus peur de la mort.
Et là où c'est complètement dingue, c'est que c'est pour ça que des gens qui ne se sont jamais parlé, qui ne sont pas sur les mêmes continents, dans plusieurs religions, voient la même chose. Ils décrivent tous la même lumière, cette source blanche que vous appelez, vous, l'ange. Voilà. Mais il y a plein de façons de le nommer.
C'est le nom de sa culture. C'est-à-dire, finalement, elle, comme étant une culture judéo-chrétienne, elle va appeler cette tête de lumière un ange. Mmh. Mais après tout, dans toutes les autres cultures, on peut donner d'autres noms. Et puis, peu importe le nom qu'on donne. C'est effectivement une source de lumière qui transmet un amour inconditionnel.
Et vous-même, est-ce que vous êtes un ange ?
Alors écoutez, moi j'essaie simplement, de transmettre quelque chose aux autres, mais sans être un ange, n'allons pas jusque là.
C'est la question que j'allais poser à Hélène Manarino qui arrive.
Oui, dans un instant, on va tout savoir de vous, Frédéric Lenoir. En tout cas, tout ce que vous n'avez jamais révélé, on va le découvrir grâce à Hélène Manarino qui va nous dresser votre portrait inattendu sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Et c'est notre ange à nous, Hélène Manarino, mais pas besoin de
c'est
la consoler.
Gentil.
Hélène, c'est à vous.
Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour Hélène.
Je suis face à vous ce matin pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous, en tout cas pas très bien. Alors Frédéric Lenoir, ce que l'on peut dire, c'est que dans votre vie, vous tentez. Vous essayez, peu importe le résultat, vous l'avez fait. Alors vous doutez bien qu'il y a une explication derrière tout ça. Alors pour vous détendre, déjà c'est le matin, on va respecter votre rituel de vie en écoutant ça. Du Case Jarrett. Et ça, vous l'écoutez tous les matins. Donc on peut dire que vous êtes prêts. On aurait pu aussi vous apporter des rochers Suchard aussi, mais ça, bon, c'est pour votre bien. Alors, Frédéric Lenoir, vous avez tenté, par exemple, de draguer lors d'une soirée lycée. Votre professeur vous avait invité à un repas où il avait également convié les 4 plus jolies filles de l'école. Prof sympa, vous étiez évidemment ravi de cette proposition, vous vous êtes préparé et en arrivant, vous avez voulu faire l'homme viril en buvant un verre de vodka, sauf que vous ne buvez pas une goutte d'alcool. Avant même que le repas démarre, vous vous êtes allongé sur le canapé, malade comme un chien, avec toutes ces jeunes filles qui se moquaient de vous.
C'est l'auto-rato.
Exactement. D'ailleurs, en ce qui concerne les dîners, vous êtes très impatient, vous essayez à chaque fois de rester à table, mais c'est trop compliqué pour vous. Vous vous levez dès que vous voyez que ça se prolonge, sinon ça vous angoisse. Alors les dîners chez des amis ou au restaurant, puisque vous, côté cuisine, c'est crottin de chèvre sur lit de salade. C'est un peu votre
C'est mon plat préféré.
C'est pas vrai. Non, vous n'êtes pas compliqué.
Bah non.
Non, mais en tout cas, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Ouais. Soyons concrets.
Alors Frédéric Lenoir, passionné de tout, vous vous êtes frotté à une autre carrière que la vôtre, puisque petit, vous vouliez être cambrioleur.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman.
Alors, pour vous entraîner, vous cachiez l'argenterie dans le jardin. Enfin, vous l'enterriez carrément. Ensuite, vous vous amusiez à trouver des techniques pour retrouver
C'est ma petite sœur qui a dû balancer ça.
Cette argenterie, oui, puisque votre cobaye était votre sœur qui suivait cet entraînement intensif de cambrioleuse de l'extrême, Frédéric Lenoir. Alors, il faut rappeler que vous étiez un enfant qui pleurait beaucoup en marchant dans les allées de la maison familiale. Et vous auriez pu réussir une bêtise, mais vous vous êtes fait choper. Et de justesse, vous avez toujours beaucoup aimé les animaux et la nuit, vous partiez tout seul au fond du jardin avec toute la bonne volonté du monde. Seul, je le rappelle, tout petit, et vos parents vous ont évidemment disputé. Et votre réponse, je ne risque rien, les loups me protègent.
C'est génial, on dirait un titre de livre.
C'est vrai.
Ah, c'est beau,
c'est
ça.
Magnifique, je ne risque rien, les loups me protègent.
Et c'est vrai que j'ai toujours le sentiment que le danger pouvait venir que de l'humain. Ouais. Mais les animaux, j'adorais ça. Et c'est vrai que j'ai continué d'aimer tellement les animaux que j'ai fait une association de défense des animaux. Ça reste vraiment pour moi... voilà, j'ai un lien de tendresse avec les animaux très très fort.
Hélène.
Et oui, cette passion est plus précisément... d'un chien aussi nommé Gustave, avec qui vous avez eu une relation extrêmement fusionnelle.
J'ai récupéré à la SPA, ce chien était inadoptable, parce qu'il a été il pouvait pas rester seul. Donc les gens le ramenaient à la SPA, parce qu'il cassait tout. Bon, il faisait 70 kilos, c'était un Leonberg. Il cassait tout, et du coup, moi, comme j'étais écrivain, je vivais chez moi, j'ai dit, je le prends, je l'ai sauvé, comme ça. Et du coup, il était tout le temps avec moi, il m'accompagnait aux émissions télé, radio,
c'est pas vrai.
Tout le temps avec moi. Et malheureusement, il est mort à 7 ans d'un cancer, mais j'avoue que sa perte, ça m'a bouleversé. C'est très dur qu'on perd un animal qui est tout le temps avec vous. On a l'impression que c'est comme un enfant.
70 kilos.
Alors revenons à notre Frédéric Lenoir, le tentateur. Vous avez tenté de vous mettre au pédalo. Vous avez une maison en Corse. Vous avez donc acheté tout naturellement un pédalo.
Oui,
avec
Nicolas Hulot, tiens-toi bien.
C'est plus modeste qu'un yacht. Hein.
Voilà. Mais c'est quand même un pédalo avec un toboggan. Voilà,
oui,
quand même,
voilà,
une petite option.
Enfants.
Vous vous êtes donc aventuré, sauf que vous ne connaissez pas la mer. Donc ce sont les voisins qui vous ont vus au large et qui ont dû venir vous tracter, Frédéric Lenoir. Il vous charrie d'ailleurs encore maintenant. Alors, vous aimez...
Oui, j'ai pas vu que les vents allaient dans le mauvais sens.
Vous aimez la nature, la montagne, les randonnées. Il y a aussi parfois vos cours de danse. Spirituel aussi, vous avez presque rencontré le Dalai Lama.
J'ai rencontré 12 fois le Dalai Lama.
Mais oui, la première fois, presque... votre première rencontre avec lui, avec cette histoire de chat.
Ah non, non, ça c'est une autre histoire, c'est trop long à raconter.
Ah c'est trop long, bon, bah tant pis. Alors, mais surtout Frédéric Lenoir, vous ne vous démontez jamais, comme ce jour où après des mois de travail acharné, pratiquement vous finissez enfin votre chapitre où vous avez tout donné. Et là, compression de données, justement, vous perdez tout sous vos yeux. Comment réagir ? Et là, vous vous souvenez que votre chapitre traite du lâcher prise.
Oui, alors j'avais écrit.
Joli signe.
Effectivement, c'est incroyable. J'écris, c'est mon livre du bonheur, un voyage philosophique. Je fais un chapitre sur le lâcher prise chez Montaigne et Chuang-tzu, qui est un penseur taoïste. Je suis hyper fier de moi, un mois de travail. Et puis j'écrase tout, je perds tout. Et là, j'ai un vertige intérieur, je m'apprête à hurler de colère. Je me dis, mais de quoi parlait ce chapitre déjà ? Ah oui, du lâcher prise. Et là, j'ai dit oui. Et en disant oui, en acceptant, une joie m'est tombée dessus. Et je me souviens, je marche rentrant à la maison, ma copine me voit, elle me dit, t'as l'air tout joyeux, qu'est-ce qui s'est passé ? Je dis, j'ai perdu mon chapitre. Et bon, le lendemain matin, quand j'ai dû recommencer, j'étais moins joyeux. C'est vrai qu'on lâche prise, qu'on accepte les choses, et ben des fois, il y a une joie qui vient, parce que finalement, on se dit, allez, la vie, c'est pas si important que ça.
Vous avez raison, je vais me casser, allez, salut.
je finis quand même le portrait. Alors, la surprise. Ce matin, ce que vous faites souvent, notamment Frédéric Lenoir, en écoutant ça. Les Pink Floyd, alors vous avez tenté de draguer, tenté le pédalo, tenté de cambrioler, tenté de cuisiner, même si vous avez le vertige, vous n'hésitez pas à sauter le pas. En résumé, tentateur Frédéric Lenoir, comme disait Oscar Wilde, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Mais oui, bien sûr.
Évidemment.
Et vous êtes reconnu dans le portrait.
Tout à fait. Alors vraiment, bravo pour les infos que vous avez été chercher.
Et le cambriolage, qu'est-ce qui vous en reste ?
J'ai beaucoup cambriolé, petit, hein, jusqu'à l'âge de 6 ans. Puis aujourd'hui, je m'aperçois que bon, il y a peut-être d'autres moyens d'avoir ce qu'on possède. Donc j'ai renoncé au cambriolage.
Vous restez avec nous ?
Avec plaisir.
Évidemment, vous ne lâchez pas prise. Ouais.
Frédéric Lenoir qui reste avec nous. Donc, et dans un instant, on va découvrir nos indispensables du jour. On va parler cinéma avec Mathieu Charrier et musique. Non, exposition cette fois-ci avec Angèle Châtelier sur Europe 1.